Vous écoutez
RMC.
RMC.
S'il revient en équipe de France, c'est avec grand plaisir. J'y ouvre la porte grande ouverte.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
Ça se finit toujours par un divorce avec porte et fracas.
L'image que ça donne, moi pour moi, c'est un gars qui doit sortir avec la grande porte.
Ça peut être le premier Cohen dans le... Dans la petite ouverture de porte là que...
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct comme tous les soirs évidemment sur RMC, sur Afterfoot TV, sur la chaîne YouTube de l'After, première radio de France. Toujours le soir avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là également. Salut Florent.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut à tous.
On va parler de Strasbourg, bien sûr, qui ce soir est éliminé de la Conference League en ratant totalement son match. Le 32-16 est ouvert, supporters strasbourgeois. Et puis, grosse page espagnole ce soir, outre le Rayo Vallecano qui est qualifié. On parlera du Real où là, on a franchi quand même un palier peut-être jamais vu avec baston et joueur à l'hôpital. Donc, les détails tout à l'heure avec Edgar Grollo qui sera avec nous. Sans oublier l'actu du jour, le PSG qualifié hier. On a une interview également RMC Sport de Florent Ouzo, le patron de Bein Sport, très intéressante à décrypter. Bref, pas mal de choses à faire pendant une heure, les gars. Bon, je pense que c'est pas la peine de faire trois points, à mon avis. Enfin, à moins que vous les ayez préparés.
Oui, tu sais, on va te suivre parce qu'on partage ta peine ce soir ou ta colère parce que les deux doivent être mêlés. Donc on va te suivre, on va se mettre dans ta roue.
Ah, carrément, là, c'est trop.
On va se mettre dans ta roue avec Flo. On va faire les équipiers là du Tour de France.
Ouais, ou alors les porteurs de cercueil.
Ouais.
On va porter les bidons.
Hein. Ouais, on va lui porter les petits bidons.
Parce que là quand même, là ta saison, on va revenir sur le match, mais au final, ce qui va rester de la saison, ce qui se passe en championnat avec les matchs un peu lâchés en vue
il va te rester une demi-finale de Coupe d'Europe quand même, parce que t'as jamais fait ça dans ton histoire.
Ouais, franchement, une demi-finale
en fait,
de Ligue 1.
Après avoir voulu choisir, tu te mettais face au risque de prendre le mur. Et le mur, c'était un mur qui te disait t'as fait les mauvais choix, tu t'es planté et ta saison sera pas bonne. La seule porte de sortie, c'était d'être à Leipzig, là, le fameux road to Leipzig. À l'arrivée, c'est road to ta maison, quoi. Et la saison, elle est pas bonne parce que t'as finalement un gros budget, t'as des très bons joueurs et t'as géré la deuxième partie de saison complètement à l'envers. Alors t'as eu quelques blessés, ok, mais bon, beaucoup de clubs en ont des blessés. Et moi, je suis ce soir partagé entre. Je pense que le sentiment qui domine, c'est limite presque plus la colère, parce que j'ai pas du tout aimé le match que Strasbourg a fait, même si, avec un peu de lucidité, quand j'entends Strasbourg a manqué son match retour, a manqué son match aller, mais si t'as manqué ton match retour à ton match aller, c'est juste que l'adversaire était meilleur que toi.
Oui, mais là, Strasbourg mérite pas, c'est tout, point barre.
Non, mais c'est juste que l'adversaire, il est meilleur que toi. Et si le Rayo Vallecano.
Le Rayo Vallecano, ils ont montré, enfin, un truc très con, en fait, ils ont montré ce qu'était une équipe de foot, en fait. C'est-à-dire que t'es solidaire,
des principes battant, simples, de la technique, de la combativité,
de
des mecs qui vont dans le même sens.
Voilà.
Et à Strasbourg, t'as pas de stars non plus. Si t'as des stars, ça veut dire que c'est des mecs qui se prennent pour des stars, mais qui ne le sont pas. Ah bah, et ça, c'est possible.
Oui, il y en a qui se prennent pour des stars et qui ne le sont pas. J'ai quelques noms, si tu veux.
Oui, mais quand t'es dans un club comme Strasbourg, qui vient d'être acheté par un gros fonds, avec des passerelles possibles vers Chelsea, avec des mecs qui ont été encensés, parce que dans notre championnat, Rayo Vallecano, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent retourner l'histoire dans tous les sens. En Espagne, personne ne parlera d'eux parce que t'es focalisé sur 10 000 autres clubs avant. Dans notre championnat qui est souvent très bien plus homogène derrière le PSG, t'as toujours de la place pour des histoires et des gens qu'on va un peu plus monter, qu'on va mettre en avant. Et Strasbourg, cette année, on en a énormément parlé. Donc peut-être que certains se sont pris pour des vedettes. J'en sais rien. Je veux pas m'avancer là-dessus. Toujours est-il que ce soir, comme tu l'as dit, ils ont pris la mesure de ce qui les séparait d'une grande équipe. Juste d'une bonne équipe.
Ouais, mais
d'une bonne équipe.
Après, ce qui m'inquiète plus, moi, par rapport à la gestion sportive.
Non, mais regarde les mégas, sans déconner. Regarde, attends, excuse-moi, vraiment, Flo. Tu peux continuer à parler, excuse-moi de t'avoir coupé, mais jette un coup d'œil en même temps que tu parles sur les méga au milieu de la pelouse. Moi, je veux bien. Tu sais, c'est toujours pareil, le mec qui se la raconte et tout. Si à un moment t'assumes, raconte-toi tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu te la racontes et que t'es comme ça là, regarde-le là. Mais t'es juste un guignol, en fait. T'es juste un guignol.
Parce qu'il est sur la pelouse avec ses lunettes de soleil.
Avec les lunettes, l'espèce de grosse chaîne et tout. En fait, t'es juste. Et puis,
regarde
Moreira qui lui dit Moreira, tu dois voir Gilbert, non? Tu vois la
chaîne Moreira et méga.
Tu vois la scène ou pas?
Ouais. Parce qu'en fait, Emega voulait calmer.
Borrera, il dit vas-y, laisse tomber et tout. Et lui, il veut aller voir les supporters en disant. En gros, ne nous engueulez pas, machin et tout.
Non, parce que là, attention, parce que là, c'est chaud. Hein. Là, ouais. Ils sont en train de se faire insulter par le cop strasbourgeois, les gars.
Et donc
là,
c'est
la séance.
Et Borrera, il se barre, il fait la gueule. Regarde, Borrera,
en fait, Emega est allé devant les supporters et il a voulu dire vous pouvez m'engueuler moi, mais n'engueulez pas les autres et les autres joueurs. Et Borrera l'a voulu l'empêcher d'aller voir les supporters.
Son attitude n'est pas si négative que ça, parce qu'il demande vraiment à tous les joueurs d'applaudir le public. Il assume le fait d'être le capitaine. Il veut être le capitaine. Enfin, il montre qu'il est le capitaine. Il protège ses joueurs quelque part. Enfin, les membres de son équipe.
Il fait pas le malin. Voilà, effectivement, c'est parce que. Si. Et puis, il estime que le public est dur et donc il a demandé au public d'applaudir les joueurs. Et il a même dit ne m'applaudissez pas moi si vous le souhaitez par rapport à ce qui s'est passé à son transfert à Chelsea, j'imagine. Ouais. Mais applaudissez les autres. Je vais juste revenir moi sur un truc qui est.
Là, tu vas rajouter une fracture qui s'est creusée là, parce qu'on a vu entre, ultra et joueur.
Mais c'est un peu.
Il y avait la fracture entre ultra et dirigeant, tu vois. Et là, tu vas rajouter ça parce
que là, c'est la soirée. Mais tu parlais de colère. Moi, je parle.
Là, tout est pourri, quoi.
Je parle un peu de résignation, Gilbert, et de faillite sportive. C'est pour ça que ce qui est intéressant d'analyser. Pourquoi Strasbourg a fait deux mauvais matchs contre le Rayo Vallecano? Parce que les joueurs étaient bouillis. Moi, ce soir, je suis pas en colère contre les joueurs, parce que c'est pas parce qu'ils se sont pris pour des stars qu'ils ont perdu. C'est parce que l'équipe, depuis déjà un petit moment, elle est bouillie, elle est cramée. Barco, il est revenu de blessure, il est cramé. Guélat,
oui,
Barco,
ils ont joué moins de matchs que le Rayo Vallecano.
Mais je l'ai vu au match aller. J'aurais pu te dire à la fin du match aller. Et c'est pour ça que je te dis que l'analyse de la saison sportive entre les changements d'entraîneur et justement la gestion des temps de jeu et de la fatigue, puisqu'on en parle beaucoup au Paris Saint-Germain et qu'on estime que c'est une des réussites, cette gestion des temps et des récup au PSG.
C'est ça aujourd'hui, de toute façon.
Bien sûr, sauf que là, tu t'aperçois depuis le match aller, quand je les ai vus au match aller.
Ils ont tenté de le faire, Flo, mais ça n'a pas suffi, je pense. Parce que l'équipe a tourné en Ligue 1 ces dernières semaines.
Donc, Gilbert, que dans la gestion globale là, du staff, la gestion sportive, physique du staff, il y a des erreurs de fait. Puisque tu as raison, ils ont fait tourner et ils n'arrivent même pas avec un calendrier somme toute classique et en ayant fait tourner à avoir du jus. Rappelons quand même que sur les 4 derniers matchs de Coupe d'Europe, ils ont perdu assez violemment le match aller à Mayence et ils viennent de faire deux matchs catastrophiques avec 3 tirs cadrés là dans cette demi-finale. Hein. 3 tirs cadrés en 180 minutes. Donc moi je pense qu'on peut tirer toutes les conclusions qu'on veut sur la multi, sur tout ça. Mais déjà, dans le fonctionnement là, dans ce nouveau fonctionnement, on va dire, avec des moyens et qui a apporté quand même une aventure en Coupe d'Europe, il faut aussi se poser des vraies bonnes questions dans l'organisation, dans la gestion des staffs médicaux, dans la gestion physique des joueurs. Parce que là, ce soir, c'est pour ça que moi, j'ai pas de la colère. Depuis le match aller, je suis plutôt résigné. Quand j'ai vu que dès les premières minutes, les 15 premières minutes, le Rayo Vallecano était dans le camp strasbourgeois et faisait son match tranquillement, et en ne s'épuisant même pas à la récup, et récupérer les ballons sans s'épuiser, je me suis dit ok, ils sont bouillis. Il se trouve que Guéladou et Barco, j'avais un petit espoir en voyant la compo, parce qu'il faut dire quand même qu'ils ont fait le match aller sans Guéladoué, sans Barco et sans Panicelli.
Oui, mais bon, les mecs reviennent de 3 semaines sans compète.
Même plus
pour Guéladoué.
Ça ne me convainc pas. Il n'y a pas à être cramé. Il y a pas. Si tu l'es, ça veut dire que des choses ont été mal gérées par la cellule performance. Rayo Vallecano a joué plus de matchs que Strasbourg. Strasbourg a zappé plein de matchs, a fait reposer des joueurs. Il n'y a aucune raison d'être cramé. Moi, je ne retiens pas ça. Je vais juste retenir que le Rayo Vallecano est une équipe qui est meilleure techniquement, meilleure dans les positionnements. Si tu regardes le match de Strasbourg ce soir, il y a des positionnements de joueurs qu'on n'a pas compris. Ouattara, on n'a pas compris.
Alors,
son match.
Justement.
Guéladoué, écoute, si Guéladoué, il va pas bien parce que le pauvre, il a eu un virus, qu'il a perdu des kilos et tout, alors dans ces cas-là, ne le fais pas jouer. Alors, effectivement, après, tu n'avais plus de pointe, donc il a fallu que tu bricole. Bon, Nanasi, il peut jouer, il n'a pas joué, il l'a fait rentrer après. Bon, voilà, il y a des choix, il y a des positionnements, il y a probablement aussi un déficit technique par rapport à l'équipe en face, qui est une équipe typique espagnole où tu es technique du gardien jusqu'à l'attaquant, où tu sais faire 3 passes, tu sais faire un décalage, enfin des trucs de base. Et que peut-être que Strasbourg joue plus sur l'intensité.
Le Palasson que tu as vu en face, c'était très bon.
Ouais.
Barco était largement à ce niveau-là avant. Mais
globalement, il y a plus de technique dans l'équipe de Rayo. Il y a plus de de rapport positif au ballon. Mais Strasbourg pouvait faire autrement, c'est-à-dire avec ce qui fait la force du football moderne aujourd'hui, c'est tu rentres dedans, tu vas à l'intensité, tu profites des espaces, tu es plus rapide, tu mets de la vitesse, et c'est souvent comme ça. C'est comme ça que Strasbourg a renversé Mayence, c'est comme ça que Strasbourg a fait les bons matchs cette année. Là, ouais, à part une ou deux accélérations de Moreira, qui est peut-être le dernier à ne pas avoir lâché dans ce match, bon, après, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était pauvre.
J'aimerais
c'était
qu'on ouvre le dossier, Gary Oli. Daniel, tu m'entends ou tu m'entends pas, en fait.
T'as juste été inférieur.
Vas-y, Gilbert.
Est-ce que vous... On t'entendait vraiment?
Oui, oui,
donc, en fait, tu t'en fous quand j'essaie d'en placer une. En fait, c'est bien ce que je pensais. Donc, je vais vous lister.
Entendu, c'est tout, t'es loin.
Ben, mets un casque, comme ça, tu m'entendras. Gary O'Neill, je vais vous lister quelques erreurs, parce qu'en fait, j'aimerais qu'on ouvre le dossier. Il y a eu des erreurs déjà récentes de coaching, de choix de joueurs, mais là, je reste juste uniquement sur ce soir. Tu es en demi-finale retour de Coupe d'Europe, donc tu es sur un match décisif. Donc, il fait jouer Ouattara. Ouattara qui a joué latéral, qui a joué 6. Là, il le fait jouer, 10. 9,5, 10. Bon, il n'a jamais joué là. Donc là, dans ce match-là, il fait ça. Il met N'Sizo avant-centre, il l'a déjà fait, ça n'a jamais marché, ça a encore moins marché que d'habitude ce soir.
Il ne met pas Nanasi.
Il ne met pas Nanasi.
Il fait une saison que N'Sizo.
Il ne met pas non plus Amo Ameyo, qui a été le seul qui a été très bon en Ligue 1 ce week-end. Voilà. Il y a un pénalty à la fin qui peut te permettre de rêver 5 minutes. Tu vois, tu dis tu marques le péno, éventuellement, je ne sais pas, moi, sur un malentendu, une dernière action. Il fait tirer qui ? Le mec qui est en échec absolu sur tout le match. Enfin, au bout d'un moment,
sur O'Neill, là où tu as raison, c'est que déjà, je me suis fait plusieurs réflexions. Un sur la compo, tu as tout à fait raison. Sur la communication même entre les deux matchs, où, si tu veux, j'ai pas vu le mec qui avait compris, mesuré l'enjeu et l'ampleur, on va dire, de ce qu'il y avait à faire, tu vois, qui était dans une forme de gestion. Et en fait, il est dans une forme de passivité qu'on a vu dans la première période, ou qui était catastrophique, la première période. C'était un miracle que ça, à 0-0, ça aurait été parfait. Ils prennent le but à la 42e. Et là, il est à discuter avec ses adjoints pendant 20 à 30 minutes. Sans intervenir ou très peu directement, tu vois, sur le terrain.
En faisant des mauvais choix.
Et or, c'est une équipe jeune. Et là, le coach, il doit être présent pour changer quelque chose quand tu prends le bouillon, comme c'était le cas face au Rayo Vallecano.
Moi, quand il est arrivé, j'ai pas vraiment d'idée sur ce coach. Ce que vous dites, je l'entends.
Vous le connaissez pas, de toute façon. Donc, ouais.
Mais ce que je sais, c'est quand il est arrivé, les premiers commentaires à son sujet, c'était oh, dis donc, ça joue beaucoup mieux qu'avec Rosenior. Ça a été dit par plein de gens.
Ça joue plus vertical, c'est plus
ça a été
plus
dit, efficace. C'est beaucoup plus efficace, non, mais, c'est beaucoup mieux.
C'était vrai parce que Rosenior, lui, il avait ses sorties de balle à 12 passes dans la surface de réparation. Donc forcément, lui, il a arrêté ça, O'Neill. Donc tout de suite, tout le monde a dit ah ouais, c'est plus vertical.
Écoute, ça a fait partie des choses cette année que j'ai souvent répété, c'est les avis divergents qu'on a eu sur les coachs et sur la prestation des équipes. On n'a pas arrêté, il y a eu 1000 va-et-vient. Ah, il est formidable, ah, il est pas bien. Ah, il est formidable, il est pas bien. Bon, ben, je vais pas vous refaire la liste de tous les coachs de Ligue 1 qui ont eu droit à ce genre de commentaires. Gary O'Neill en a fait partie, tout comme Rosenior avant lui. Limite, c'était une libération quand il s'est barré. Quand il est arrivé, c'était formidable, étudiant américain, génial, tout, formidable. Il y avait 1000 trucs. Bon, voilà, on peut taper sur Gary O'Neill si vous voulez. J'ai aucun problème.
Moi, Daniel,
il est arrivé en cours de saison.
Sur O'Neill, je vais pas taper.
C'est un crack. Hein.
C'est sûr du factuel du match,
Gilbert, je vais te dire tout simplement que Gary O'Neill a bien géré la Ligue 1. Après, ils ont tourné à la fin. Bah, et que globalement, non, mais ce que je veux dire, ce qu'on a vu dans le jeu, comme tu disais là au début, moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait.
Les mecs, ils se sont tapés des défaites.
Non, je parle juste, sauf à la fin, parce qu'ils ont fait tourner. Mais quand il a pris l'équipe, on a effectivement, comme dit Gilbert, plus de simplicité, plus de verticalité. Honnêtement, pour un gars qui arrive comme ça à brûle pour point, il s'est plutôt bien débrouillé. Mais moi, je pense tout simplement qu'il a toucher une forme de plafond de verre avec la Coupe d'Europe. Là, il a en face des mecs qui savent jouer ensemble, qui savent comment faire. Moi, je l'ai vu sur son banc là, ne pas intervenir suffisamment tôt, ne pas changer, passer son temps avec les tablettes et les adjoints. Honnêtement, ces coachs 2.0 là, qui passent 3 heures avec leurs adjoints sans jamais intervenir sur le terrain, c'est impossible.
Je sais pas, après le match raté à Mayence, c'était pareil.
Vous avez compris à quoi ça sert de prendre des notes sur un carnet pendant le match, vous avez compris l'utilité de ce truc? t'es coach, tu as besoin de prendre des notes dans un carnet.
Ça, c'est bizarre, non? Tu le vois plus trop quand même.
Bon, les notes dans un carnet, c'est fait longtemps. Hein. Van Gaal faisait ça.
Et Rosenior le faisait, Onay il le faisait. Peut-être qu'ils sont formés comme ça, les mecs, en Angleterre, j'en sais rien.
Rudy Garcia le faisait, il y a tout plein de coachs.
Ah, c'est vrai, Rudy Garcia le faisait.
Non, mais après, t'as deux trucs. Est-ce que tu notes un truc qui n'est pas urgent et que tu te dis, tiens, je vais te dire à ce joueur-là que dans la semaine, qu'il faut travailler ce truc-là. Mais là, en l'occurrence, on était sur. Mais dans la première période, moi, j'ai été sidéré. Le Rayo, ils étaient dans le camp de Strasbourg. T'avais l'impression que c'était eux qui avaient un but à remonter. Donc, moi, je pense que dans les intentions, dans la façon dont ils ont préparé ce match, non, et même dans la compo.
Qu'ils ont été parfaits. Ouais.
Oui, mais dans la compo qu'il met, moi, je dis toujours que t'envoies un message aussi à tes propres joueurs. Et c'est vrai que, moi, quand tu mets un peu cette compo-là et que Nanasi reste sur le banc, évidemment, il le met à 46e.
Bah, la compo, il y avait les joueurs offensifs qu'il fallait. C'est le positionnement de Ouattara.
Tu mets pas le meilleur joueur.
Tu mets juste Nanasi à la place de Ouattara, déjà.
Non, mais d'accord, mais il faut souligner, manquez pas de souligner quand même que le Rayo est arrivé et a dit. On joue, on ne va pas attendre.
Exact.
On va s'installer, nous, dans le camp d'en face. On va, nous, faire le pressing. On va, nous, faire parler la technique et faire tourner le ballon. Il faut les féliciter. Ils ont simplement été vraiment meilleurs. Alors après, on peut trouver plein d'explications à la prestation médiocre de Strasbourg. Et il y en a plein. Mais il y a un adversaire.
Et on a vu des bons joueurs.
Qui étaient meilleurs.
Parce que moi, ce Palasson, là, tu sais, le joueur qui a la coupe de Gilbert Brigois.
Il y en a plusieurs, des bons joueurs.
J'inspire les meilleurs, tu sais.
Ouais, la plaque tournante, la plaque tournante du Rayo.
Et je t'annonce qu'avec un petit peu plus d'adresse, je pense que c'était bouclé très vite le match.
Ouais, Pender, ça fait quelques heures.
Parce qu'ils ont raté.
Pender, c'est le meilleur joueur des deux matchs. Allez, comme retour.
Ouais.
Tiens, écoutez Ouattara il y a quelques instants sur Canal.
Ouais, c'est ça, comme vous l'avez dit, on est très déçus ce soir. Parce que ça nous tenait à cœur de se qualifier pour la finale. Mais bon, voilà, c'est passé. On les félicite pour les prestations qu'ils ont fait aujourd'hui. Franchement, ça nous tenait à cœur d'aller à la finale. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire franchir d'étape. Mais franchement, on les remercie pour le soutien qu'ils ont apporté depuis le début du parcours. Et franchement, on les remercie, rien à dire. Et voilà, nous, en tout cas, on est très déçus. Et on espère se relancer en championnat.
Dans un instant, Antoine au 32-16 sera avec nous. On fera une petite évaluation et on passera au reste de l'actu du jour. Dommage, on aurait pu avoir deux clubs en finale de Coupe d'Europe comme en 2004, comme en 96.
Vous avez eu le soutien du patron du foot français qui est venu et du foot européen aussi.
Oui, je l'ai vu dans les tribunes. Je ne sais pas s'il a été invité ou s'il s'est invité, mais je pense qu'on l'a invité.
Il est venu en tant que patron du foot français et européen, c'est normal. C'est comme Seferin va voir les matchs de Coupe d'Europe et le patron de la LFP va voir les équipes françaises.
C'est celui qui fait décaler les matchs de Ligue 1.
Voilà, à partir du moment où il fait le calendrier, il soutient les équipes, il décide de qui prend de la thune ou pas de la thune, il décide de tout, de la répartition de ça. Pourquoi tu veux qu'il ne vienne pas soutenir Strasbourg? C'est quand même hallucinant. Je veux dire, à quel moment on a vu des présidents d'autres clubs aller voir? Enfin, c'est incroyable. Genre, nous sommes les pacificateurs, nous supportons tout le monde, nous venons. C'est juste fou ce qui se passe dans notre football, mais. Bon, comme le PSG est en finale de Ligue des Champions, on ne peut absolument rien dire. C'est malvenu. Mais c'est fou.
Et on revient dans quelques instants pour conclure l'analyse de ce match et partir à Madrid où Edouard Grelot va nous raconter comment le Real Madrid est devenu un club de MMA.